Merci Jean-Pierre. C'est un plaisir de pouvoir parler ici et de pouvoir dialoguer. Je vous ai remarqué à ma collègue Sandrine que je trouve que c'est ce qui manque parfois pour avancer dans nos recherches, c'est cette possibilité de dialoguer pour éclaircir ses idées et pour avancer. Donc je suis ravie de cette occasion. Alors mon titre est très ambitieux, ma communication va l'être moins parce que j'ai voulu brasser beaucoup de choses et le temps ne me permettra pas de tout évoquer. Et je vais parler de l'assassinat des philosophes, mais je vais d'abord faire un détour, puisque le thème de la journée m'y invitait, sur la question des rapports entre rhétorique et philosophie. Et donc je verrai la question de l'assassinat des philosophes d'un point de vue très précis, en essayant de le rapporter aux outils que sont le dialogue. Qu'est le dialogue luciénesque. Alors, les philosophes sont des figures récurrentes des œuvres de Lucien, pas seulement dans ses dialogues. Et comme l'ont noté les commentateurs, les œuvres où Lucien ne se moque pas des philosophes sont très rares. Seul peut-être le Démonax, une biographie élogieuse d'un philosophe contemporain, ou le Nigrinos ferait exception. Trois des quatre dialogues au programme de l'agrégation cette année comptent parmi leurs personnages des philosophes ou des allégories philosophiques. Ce sont les vies des philosophes à vendre, qu'on appelait autrefois les sectes à l'encan, le pêcheur ou les ressuscités, dialogue à deux titres, et la double accusation. Les philosophes y sont placés dans des situations fantaisistes qui les rendent ridicules, tandis que leur présentation est caricaturale. Ainsi, des représentants des différentes écoles philosophiques sont vendus comme des esclaves sur l'agora dans les vies des philosophes à vendre. Socrate, Platon, Diogène, Chrysippe et les autres figures tutélaires de la philosophie sont ressuscités pour tirer vengeance de l'auteur qui a outragé leur mémoire et compose un cœur comique de philosophes en furie dans Les Ressuscités, tandis que la scène finale, comme le rappelait Madame Ozanam, qui a donné son nom, son deuxième nom au dialogue, le pêcheur, nous présente le protagoniste en train de pêcher des philosophes anonymes qui, eux aussi, sont membres de ces différentes écoles. Enfin, pour couper court aux récriminations contre la lenteur et les délais de la justice divine, ce qui est un argument philosophique qu'on rencontre par exemple dans un dialogue de Plutarque, eh bien, Zeus, dans la double accusation, envoie justice présider des procès dont l'une des parties est le représentant d'une école philosophique. Le rire que suscitent ces philosophes relève à la fois d'un jeu irrévérencieux avec une figure de l'intellectuel et envers une tradition culturelle, mais il s'accompagne également d'une dénonciation des travers de certains philosophes, voire d'une mise en cause de la légitimité des écoles philosophiques. Deux de ces trois dialogues sont également des manifestes littéraires de l'auteur. Dans la double accusation comme dans le pêcheur, Lucien introduit un double fictif de la figure auctoriale qui se voit accusé pour les œuvres qu'il a composées. Le personnage du Syrien dans la double accusation doit répondre aux plaintes successives de rhétorique et dialogue et expose, dans sa défense, la poétique du dialogue lucianesque. Comme l'a rappelé Madame Ozanam, cette poétique est fondée sur le principe du mélange des genres, mixis, et Lucien met en avant, au sein d'une énumération d'influences plus large, deux genres principaux, le dialogue philosophique et la comédie. Dans Le Pêcheur, Parésiades, le protagoniste, est accusé d'avoir diffamé la philosophie dans une œuvre précédente, où on reconnaît les vies des philosophes à vendre, et son entreprise de dérision comique est comparée à celle d'Aristophane dans Les Nuées à l'égard de Socrate. Il lui est reproché d'avoir détourné à des fins de satire philosophique le dialogue qu'il a affublé d'un rôle comique. Dans ces deux œuvres, la définition du dialogue lucianesque intervient donc dans un cadre de satire philosophique, ce qui interroge non seulement sur le plan formel les relations du dialogue lucianesque avec le dialogue philosophique, mais également sur le plan de leur enjeu, comique ou sérieux, satirique et ou philosophique. Le dialogue comique est-il le moyen formel pour parodier et dénigrer la philosophie ? Ou peut-il prétendre lui-même à devenir une nouvelle forme de discours philosophique? Dans cette hybridation du dialogue avec la comédie, la rhétorique peut sembler ne plus avoir de place. Pourtant, sa forme imprègne les deux œuvres que sont la double accusation et le pêcheur. Que l'antilogie judiciaire est au centre de chacun des deux dialogues, et la rhétorique définit l'identité des deux doubles fictifs de l'auteur, présentés tous deux comme des orateurs. Donc dans un premier temps, je vais regarder cette tension entre dialogue et rhétorique dans ces deux œuvres, puis je m'intéresserai donc à un aspect plus particulièrement de la satire des philosophes, surtout dans le pêcheur. La double accusation rhétorique et dialogue prononce tour à tour contre le Syrien, est la dernière cause d'une série de 6 procès opposant chacun les représentants des deux modes de vie, dont l'un est systématiquement le porte-parole d'une école philosophique. Rhétorique accuse le Syrien de l'avoir abandonné alors qu'il lui doit tout, sa formation, son succès, son identité même de lettré grec, pour suivre dialogue. Cet abandon, au vu des causes précédentes, peut apparaître comme un changement de mode de vie, une conversion de la rhétorique vers la philosophie. Rhétorique et dialogue apparaissent comme deux modes exclusifs l'un de l'autre, dans la tradition platonicienne qui oppose rhétorique et philosophie et qu'on voit débattue notamment dans le Gorgias. Dans la double accusation, cependant, la conversion du Syrien au dialogue philosophique est d'abord décrite par rhétorique avant tout comme un changement de forme d'expression. C'est le texte numéro 1, et pour aller un petit peu plus vite, je me contente de lire la traduction, c'est la traduction de Jacques Bompin. « Il ne rougit pas d'amputer la liberté et les penchants de mes discours, donc c'est rhétorique qui parle, hein, pour s'enfermer dans des questions brèves et hachées, et au lieu de dire ce qu'il souhaite à pleine voix, il fait un tissu de courtes phrases et ne parle que par syllabes. Cette opposition entre la brièveté du dialogue et la longueur du discours de la rhétorique rappelle le refus par Socrate, dont on a discuté ce matin, de la macrologia de ses interlocuteurs sophistes dans l'espace du dialogue. La brièveté et la forme de l'échange par questions-réponses définissent désormais, aux yeux de Lucien et de son auditoire, le dialogue philosophique, sous une forme un petit peu simpliste, et qui est ici assimilé au dialogue socratique. Dans sa défense, le Syrien justifie son abandon en imputant à rhétorique la cause de sa désaffection. Loin d'être une épouse fidèle, pleine de décence comme elle l'était du temps de Démosthène, elle s'est conduite en courtisane et en femme adultère. La stratégie argumentative est habile puisqu'elle retourne l'accusation d'infidélité contre son adversaire. L'allusion à Démosthène suggère une évolution de l'éloquence qui ne correspond plus au modèle idéal de l'époque classique. Et je rejoins ce que disait Stéphane Marchand tout à l'heure, hein, le thème de la corruption de l'éloquence est très fréquent au Empire, tant chez les auteurs latins comme Tacite, Quintilien, ou chez le grec Élus Aristide, et on déplore la disparition des grands enjeux de l'éloquence politique, faisait la grandeur des discours de Démosthène, la substitution à cette grande éloquence d'une éloquence scolaire et fictive, celle des déclamations, et un style souvent très orné, celui de la rhétorique asianiste. Telle est la rhétorique dont s'est lassé le Syrien, qui dit, je cite, « Il convenait à un homme approchant de la quarantaine d'en finir avec cette agitation et ses procès, et de laisser en paix les juges, d'éviter d'accuser les tyrans et de louer les prix de bravoure. » Accuser les tyrans et louer les prix de bravoure, ce sont en fait des sujets favoris des déclamateurs de l'époque. On a donc une sorte d'inversion du paradigme du Gorgias, où Calliclès condamnait la pratique de la philosophie passé un certain âge comme inadaptée. Et ici, c'est l'inverse, c'est le Syrien qui présente la rhétorique comme étant plutôt quelque chose qui devrait se limiter à la jeunesse pour passer ensuite dans la maturité à la philosophie. Donc le Syrien rejette la rhétorique sophistique contemporaine pour, nous dit-il, la conversation philosophique. Cependant, s'il est naturel que la rhétorique expose ses griefs dans la double accusation, dans un plaidoyer conforme aux règles de l'art, jusqu'à parodier Démosthène dans son exorde, on pouvait attendre que le Syrien et dialogue s'expriment en mode dialogique. Or, rhétorique réclame vainement que le Syrien use du dialogue et non du discours dans sa défense, et c'est le numéro 2 de mon exemplier. J'ai parlé juge, de votre côté, si mon adversaire veut se défendre en recourant à mon genre de discours, et on pourrait presque traduire à la modalité discursive de mon, qui est la mienne, hein, ne lui permettez pas, il serait cruel en effet qu'il aiguise mon propre poignard contre moi, qu'il se défende à la manière de son amant dialogue, s'il le peut. Ce à quoi Hermès répond, cette proposition n'est pas acceptable car il lui est impossible, rhétorique, de se défendre à lui seul en adoptant la forme du dialogue, alors qu'il prononce lui aussi un discours. Ce rappel d'Hermès, donc de cette distinction de deux champs d'usage de la parole, qu'on retrouvait, qu'on parlait ce matin, à savoir que l'espace du tribunal ne peut pas être l'espace du dialogue, puisqu'il n'y a plus de conciliation et d'accord possible, qu'il n'y a pas d'interlocuteur mais un adversaire, qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de convaincre cet adversaire, mais de convaincre l'auditoire. Cette affirmation d'Hermès, donc qui est le dieu de la rhétorique, au passage, sur l'impossibilité d'une apologie dialogique, semble une réponse à Platon et son apologie de Socrate, laquelle revêt en partie cette forme dialogique et échoue. À l'inverse, le Syrien, lui, va gagner sa cause. Et finalement, on a le sentiment que Lucien juge plus sûr pour obtenir la victoire contre ses détracteurs d'utiliser la rhétorique que le dialogue. Dialogue, d'ailleurs, renonce lui-même à ses habitudes, toujours dans ce même... dans cette même double accusation, pour adopter la coutume du tribunal, c'est le numéro 3. Pour ma part, donc c'est le tout début de son discours, homme de défense, pour ma part, juge, je ne voudrais pas m'étendre devant vous en long discours, mais m'exprimer brièvement à mon habitude. Cependant, je présenterai mon accusation comme sur l'usage dans les tribunaux, bien que je sois tout à fait novice et sans expérience en la matière. Voici donc l'exhorte que je vous propose. Les protestations de dialogue sur son inexpérience des tribunaux et de la rhétorique judiciaire sont naturelles au vu de son identité. Cependant, elles font écho, là encore, en les inversant, aux paroles de Socrate dans le début de son apologie. Socrate lui aussi insiste sur le fait qu'il est étranger au langage des tribunaux, mais loin de renoncer à la manière de s'exprimer qui lui est propre, il demande à son auditoire de le laisser parler à son habitude, comme sur l'agora. Cette modalité d'expression socratique se traduit dans l'apologie de Platon par un glissement à l'interrogatoire dialectique lorsqu'il réfute Ménétos. Au contraire, Dialogue renie ici en quelque sorte son identité en se pliant aux conventions. Il va parler comme un rhéteur et il use d'ailleurs de la terminologie rhétorique en indiquant qu'il s'agit de son pro-oinion. C'est donc un premier infléchissement apporté au dialogue socratique. La tension entre les modalités du dialogue et de la rhétorique se retrouve dans une autre cause, la double accusation, celle où Stoa accuse Volupté et Donnet de lui avoir enlevé son disciple Dionysios. La défense de Volupté est confiée à Épicure, si bien que le différend judiciaire glisse à la controverse philosophique exposée sous la forme d'un discours rhétorique. Mais Stoa récuse les longs discours, c'est le point 4 que je ne lis pas, et ce alors même qu'elle vient d'achever un plaidoyer d'une longueur respectable et désire passer au dialogue, sans doute parce qu'il se prête mieux à la dialectique et que Stoa est sûre de l'emporter par la logique apparemment imparable d'un syllogisme. Elle obtient de fait, après la défense d'Épicure, de pouvoir recourir à ce dialogue. Donc je lis les traductions. Permettez-moi de procéder à un bref interrogatoire. Épicure répond de manière très socratique. Erotesson, apocrinoma égard, interroge, je répondrai. Penses-tu que le travail pénible soit un mal ? Oui. Et le plaisir un bien ? Bien sûr. Palimanoun. Sais-tu ce que sont le différent et l'indifférent, le préféré et le non-préféré ? Palista, parfaitement. Et puis Hermès s'interrompt. Les juges portiques disent qu'ils ne comprennent point ces questions dissyllabiques, donc arrête l'entretien, on vote. Et Stoa répond. Pourtant j'aurais gagné si je l'avais interrogé selon la forme du troisième des indémontrables. Ce dialogue prend place dans le cadre prévu par la procédure judiciaire classique de l'interrogatoire que rappelait ce matin Anne Balança. Mais il revêt ici la forme du dialogue socratique, c'est sensible notamment dans la formulation très courte des réponses d'Épicure. Le dialogue est interrompu avant que Stoa n'ait pu développer son raisonnement syllogistique, car finalement les juges ne sont pas des lecteurs de dialogues philosophiques, et le jargon conceptuel stoïcien, féru de néologisme constitué par l'ajout d'une syllabe, leur demeure hermétique. En dépit donc de la récusation de la rhétorique, cette tension du discours entre forme monologique et dialogique semble se réserver au profit de la rhétorique. De plus, les controverses philosophiques dans ce dialogue, sur les controverses qui portent sur le meilleur mode de vie possible, ont pour juge un tribunal de jurés tiré au sort. Rien ne garantit donc la validité du verdict de ces derniers, puisque ce ne sont pas des sages éclairés, mais de simples particuliers qui votent. Seule donc l'habileté argumentative et persuasive du discours entraîne leur conviction, ce qui interroge la valeur à accorder à leur jugement et la possibilité effective de déterminer un choix qui soit le meilleur. D'ailleurs, Stoa refuse le verdict et fait appel à la justice de Zeus, ce qui semble indiquer que la question du meilleur mode de vie possible ne peut être résolue de manière satisfaisante et définitive. Dans un tel cas, l'abandon par le Syrien de la rhétorique pour le dialogue philosophique ne peut être lu comme une conversion effective à une école philosophique, alors qu'aucune d'entre elles ne semble récuser ou valider réellement et définitivement. La conversion du Syrien au dialogue philosophique n'est elle-même pas une adhésion sans réserve. Dialogue se plaint en effet des mauvais traitements que le Syrien lui a fait subir. Dans un langage pompeux, triché d'images empruntées au Phèdre et au Timée, Dialogue reproche au Syrien de l'avoir privé de sa grandeur sublime en substituant à ses sujets grandioses des intrigues fantasques. De fait, comme le montre la double accusation, Dialogue est devenu un personnage de comédie, dont le sérieux est moqué comme une forme d'enflure tragique. Cette dégradation générique de la tragédie à la comédie, du sublime au burlesque, est confirmée par la réponse du Syrien, qui, dans l'optique de sa défense, présente cette transformation comme un traitement bénéfique et régénérateur. Cette transformation, nous dit-il, est devenue nécessaire d'abord sur le plan formel, c'est mon point 6, et là je mets aussi la traduction. Je me serais attendu à tout plutôt qu'à entendre ses propos de dialogue sur mon compte, lui que j'ai recueilli quand de la vie générale il était encore triste et squelettique, du fait de ses perpétuelles questions. Le dialogue, d'après le Syrien, se retrouve donc réduit à un échange sclérosé par questions-réponses et sous cette forme il n'est plus recevable. Sur le plan thématique, les sujets du dialogue sont eux aussi rejetés, c'est la troisième citation toujours dans le même point. Mais je sais bien, moi, ce qui par-dessus tout le chagrine, c'est que je ne reste pas assis à discuter avec lui de ces questions subtiles et ténues, si l'âme est immortelle, j'ai coupé, et si la rhétorique est le fantôme d'une partie de la politique, la quatrième partie de la flatterie. Il se plaît en effet, je ne sais comment, à discuter sur des riens de ce genre, comme les galeux qui aiment à se gratter. Alors, j'ai volontairement coupé pour surtout que vous ayez en... pour mettre en avant en fait cette allusion au Gorgias et à cette définition de la rhétorique par Socrate comme une flatterie, il faut y ajouter une deuxième référence, puisque même la référence au galeux me paraît être une référence au Gorgias, c'est pas identifié par mon père, mais puisque Socrate use de cette comparaison pour démontrer à Caliclès les conséquences extrêmes auxquelles aboutit son hédonisme. Or ici, Lucien détourne cette comparaison pour l'appliquer non plus aux jouisseurs immoraux tels qu'Aliclès, mais aux philosophes eux-mêmes, et donc à Socrate et Platon, qui trouveraient, à la réflexion douloureuse sur des questions abstruses, le même genre de plaisir douteux qu'un galeux. Ce détournement est assez symptomatique du déplacement du débat qu'il peut y avoir entre rhétorique et philosophie dans le Gorgias. Et finalement... on a l'impression que, ici, rhétorique et dialogue philosophique sont renvoyés dos à dos, aucun ne constituant un choix complètement satisfaisant. À cette impasse donc générique, ni rhétorique ni dialogue philosophique, une issue peut être trouvée, semble suggérer Lucien, en sollicitant un troisième genre, la comédie. Le dialogue lucianesque est donc présenté comme l'assemblage composé du dialogue philosophique et de la comédie. Alors, ça pose quand même des questions, et je vous en fais part. D'abord, on peut se demander ce qui justifie réellement cette transformation du dialogue philosophique, et je reviens sur quelques points du discours du Syrien que j'ai laissé de côté. La raison qui est donnée par le Syrien, c'est en fait le problème de la réception du dialogue philosophique par le public. D'abord, par exemple, pour la forme, je ne l'avais pas lu tout à l'heure, mais il termine en disant « aussi paraissait-il, quand il était squelettique, respectable, mais nullement plaisant et d'une, ni bienvenu, Kekarismenon auprès du public, c'est-à-dire auprès du grand nombre. Et puis, il ajoute j'ai forcé dialogue à sourire, je l'ai rendu plus agréable à voir, surtout je lui ai adjoint la comédie, et de cette façon je lui ménageais la faveur des auditeurs qui auparavant craignaient ses épines et se gardaient de toucher, etc. Cette préoccupation qu'a Lucien de plaire à son public peut être lue comme une recherche du succès. Et peut-être lu comme le témoignage qu'en fait Lucien reste un sophiste et un rhéteur qui vise à toucher son public. Alors je reviendrai sur cette hypothèse. Deuxième remarque, c'est que si finalement Lucien ôte la forme et le fond au dialogue socratique, que reste-t-il ? Puisque donc ça ne peut pas être un dialogue par question-réponse et ça ne peut pas traiter des thèmes philosophiques habituels du dialogue. Alors, petite nuance que j'y apporte, c'est que, comme l'a rappelé Madame Ozanam, il y a de fait des dialogues de Lucien qui sont des dialogues socratiques. Donc, effectivement, cette esthétique du mélange, elle joue de proportions qui sont diverses selon les dialogues. Mais il reste quand même les philosophes, puisque ces philosophes sont devenus des personnages comiques, qui, même s'ils sont caricaturés, finalement réintroduisent des thèmes philosophiques dans les dialogues. Et puis ces thèmes philosophiques, c'est une expression là encore du Syrien qui amène à le dire, semblent recentrer sur l'homme, c'est-à-dire que ce que condamne Lucien, ce sont tous ces thèmes de philosophie qui portent sur la métaphysique, l'épistémologie, enfin des thèmes qui sont trop éloignés des préoccupations quotidiennes, Et je crois qu'il faut lui lire l'idée qu'il va recentrer sur des questions éthiques quand il emploie cette image. Je l'ai habitué à marcher sur terre à la manière des hommes, alors qu'avant, Dialogue se décrivant comme observant les astres et perché dans les airs. Du coup, la filiation du dialogue socratique, c'est peut-être non seulement une manière d'inscrire pour Lucien son dialogue dans l'histoire d'un genre littéraire, qui naît dans le milieu socratique, mais peut-être finalement aussi de revendiquer une portée philosophique. Dès lors, s'interroger sur la forme à donner à ce dialogue pour qu'il touche un large public pourrait s'envisager comme une entreprise de restauration ou de démarcation d'un discours philosophique. C'est-à-dire que ça pourrait rejoindre, j'y ai pensé, parce que ce genre de réflexion a été menée à propos de Dion de Prusse, qui est un sophiste philosophe qui un petit peu mêle les frontières entre les deux, et dont on a dit que son intention était justement de trouver une forme de communication qui permette de ne pas réserver le discours philosophique à un petit cercle étroit, mais de le rendre audible par une foule. Donc un moyen donc de ne pas laisser la philosophie à des spécialistes, peut-être aussi de se démarquer du discours de ces sophistes philosophes qui donnent des conférences, et puis de restaurer un dialogue qui aurait pu être déconsidéré, ou une communication philosophique qui aurait pu être déconsidérée par les critiques de philosophes comme les cyniques, enfin de faux philosophes cyniques. J'en viens... J'en viens à la question de la satire des philosophes. Dans les trois dialogues au programme, en fait, elle porte sur deux questions distinctes. La première, celle qui est évoquée à la fois dans les vies des philosophes avant et dans la double accusation, c'est celle de la question du choix de vie, qui est en soi une question philosophique, et donc sur les options proposées par les différentes écoles. Et cette question est mise en scène de manière comique dans les vies. Alors, je ne vais pas en parler parce que ça me prendrait un peu trop de temps et je voudrais surtout m'attacher à la deuxième aspect, mais en fait, cette question, comme l'a montré Madame Ozanam, elle est traitée sur un mode de dialogue socratique dans l'Hermotimos. Et on aboutit effectivement à cette aporie, et certains y ont vu de la part de Lucien une reprise de mode de réfutation sceptique, à cette aporie qu'il n'y a pas de choix possible, parce qu'on ne peut pas accéder véritablement à la vérité, à la connaissance, et donc un refus du coup du dogmatisme et un retour à la vie commune, qui est, je crois, une option proposée par les... sceptique. Je ne dis pas trop de bêtises. Donc il y a cette possibilité de traiter cette question de manière, justement, à la manière d'un dialogue socratique, mais d'un dialogue socratique qui fonctionne à l'envers, puisque il aboutit à finalement non seulement une aporie, mais un contre-protreptique, une contre-conversion, puisque le personnage d'Hermotimos abandonne la philosophie pour revenir à la vie normale, ou en tout cas abandonne la philosophie doctrinale pour reprendre une vie normale. Et puis il y a une deuxième modalité qui est le dialogue comique et dramatique à la manière théâtrale, et ce sont les vies des philosophes à l'encan, parce qu'on retrouve cette même question et finalement cette situation de protreptique, hein, où chaque philosophe doit engager et qui est décrite dans l'Hermotimos, je vous ai mis au paragraphe 26, hein, où chaque philosophe engage le disciple à venir suivre sa voie. Elle est ici représentée de forme dramatique, sous forme de dramatique, par ces esclaves philosophes qui vont essayer de convaincre l'acheteur potentiel de les acheter. Alors évidemment avec une dimension encore plus iconoclaste que dans l'Hermotimos. Mais c'est le second point de la satire des philosophes que je voudrais traiter, à savoir la satire des faux philosophes, et qui est mise en œuvre essentiellement dans le Pêcheur. Il s'agit pour Lucien de souligner la contradiction entre justement cette manière de vivre de la plupart des philosophes contemporains et le modèle de vie, le bios philosophique, qu'il revendique, et notamment en s'affichant comme les représentants d'une école. Alors, avant d'en venir au Pêcheur, je voulais vous dire que c'est une question là aussi qui se retrouve dans plusieurs dialogues, et notamment dans Les Fugitifs, qui est un dialogue assez proche du Pêcheur, tant par le thème que par la mise en œuvre, puisque philosophie vient se plaindre auprès de Zeus de la prolifération contemporaine d'une espèce humaine qui adopte la mise du philosophe, qui se réclame du nom de philosophie, mais dont le mode de vie lui fait injure. Ces hommes, sans aucune formation philosophique, n'ont choisi de se donner l'apparence du philosophe, à l'évidence cynique, que pour échapper aux duretés de la condition servile ou pauvre. Toute la difficulté, dans les fugitifs comme dans le pêcheur, est de distinguer ces imposteurs des vrais philosophes, et Hermès est missionné par Zeus avec le soutien d'Héraclès pour les identifier et les châtier, comme Parésiades se voit confier une mission similaire par philosophie et ses suivantes dans le pêcheur. En préalable à cette intervention divine, un moyen de révéler l'usurpation de ces hommes est mentionné par philosophie, mais se révèle sans succès. Alors, je lis là aussi la traduction. Donc, ils se sont aussi aperçus, ces faux philosophes, je crois, qu'ils seraient sur un pied d'égalité avec les vrais philosophes, tois orthos philosophousi, et qu'il n'y aurait personne pour juger, dit Odigasone, et distinguer, Kaidia Crinone, en pareille matière, du moment que l'aspect extérieur était semblable. En effet, pour commencer, ils n'acceptent pas l'examen. Oudé, ton, elenkon, de Coltei. Même si on les interroge simplement, eneretaitis ou tossi, cosmios, kelketabracu, et avec mesure et concision, mais aussitôt, ils se mettent à crier et montent se réfugier dans leur citadelle, l'invective, avec leurs bâtons à portée de main. Si tu les questionnes sur leurs actes, ils font de bons discours, et si tu veux les juger par leurs discours, ils veulent qu'on examine leur vie. Éprouver la Sophia d'autrui, tel est en effet le but de la démarche de l'Hélénkos que Socrate met en œuvre quand il dialogue avec son interlocuteur en questionnant son savoir. Mais cette méthode suppose que l'autre accepte le dialogue et coopère à cet examen. Or, les faux philosophes refusent le dialogue rationnel et se soustraient à la réfutation en faisant dégénérer la discussion en dispute où ils sont assurés de l'emporter par la violence verbale et physique. Cette évocation de l'Hélénkos permet de rattacher la mission de dénonciation de l'imposture des faux cyniques à la tradition socratique et donc de conférer au dialogue de Lucien une valeur philosophique et pas seulement comique. La réfutation est toutefois profondément infléchie puisqu'elle ne porte plus sur les dogmes donnés pour des vérités mais dénonce leur reniement par la conduite de celui qui les revendique. La dialectique qui repose sur la mise en contradiction du raisonnement n'est peut-être pas l'instrument le mieux adapté pour révéler cet écart entre discours et acte, qui est aussi une distorsion entre apparence et essence. À plusieurs reprises, Lucien reproche en effet à ces charlatans de tromper les gens en arborant l'habit et les signes distinctifs du philosophe, c'est-à-dire d'un homme qui se distingue par sa vertu morale, alors qu'ils sont en réalité plus vicieux que tout un chacun. Une comparaison fréquente pour dénoncer l'illusion trompeuse de cette apparence est celle de l'acteur tragique. Donc on la trouve dans le Caroménique, mais je passe. Et elle est récurrente, en fait, dans le plaidoyer de Parésiades, dans le Pêcheur. Cette comparaison, elle s'explique d'abord parce que la panoplie du philosophe, qui est constituée à la fois par une tenue vestimentaire, un manteau, un bâton et une besace pour le cynique, mais aussi par des attributs physionomiques qui distinguent son visage, une barbe, une chevelure et une mine sérieuse. Cette panoplie du philosophe favorise le rapprochement avec le costume de l'acteur et avec son masque. Et d'ailleurs, la description de Lucien peut elle-même s'inspirer de masques de philosophes comiques, puisqu'on sait qu'il y en avait, dans la comédie nouvelle notamment. Mais cette comparaison est particulièrement adoptée parce que les philosophes jouent un rôle, en tout cas les mauvais philosophes, endossent une identité qui n'est pas en réalité la leur. Ils sont des hypocrites au sens à la fois étymologique et moderne du terme. Le paradigme tragique est retenu par Lucien parce que l'écart est plus grand que dans la comédie, dans la tragédie, entre la condition du personnage incarné et celle de l'acteur. Alors, dans le plaidoyer de Parésiades, cette opposition donc, entre costume de philosophe et identité réelle de celui-ci justifie la mission de Parésiades, qui est donc de démasquer et de punir ces faux philosophes, et d'hériter à la fin du dialogue, alors je fais un petit saut dans mon exemplier, je reviendrai après sur les exemples précédents, c'est l'exemple 13 en page 4, vérité enjoint à Parésiades la mission suivante, s'il trouve un authentique et véritable philosophe qui lui offre une couronne d'olivier et l'invite au prytanée, mais s'il rencontre un coquin, et il y en a beaucoup, qui joue au philosophe, c'est donc Henri Hypocrite Philosophias, donc qui joue la philosophie, qui lui arrache son manteau, lui coupe la barbe au ras de la peau avec un couteau à tondre les boucles. Donc voilà, il s'agit, la mission c'est donc de dépouiller en fait le philosophe de son costume, puisque ce costume n'est qu'un déguisement, et le philosophe un hypocritès, un acteur. Le paradigme de l'acteur sert également la dénonciation d'une mauvaise mimésis. Le pseudo-sophos se limite, nous dit Lucien, à une imitation facile et superficielle du philosophe, en se contentant d'endosser son vêtement et de singer sa démarche et son air. Mais pire, c'est un mauvais acteur dont la prestation déshonore le rôle et donc la figure qu'il incarne. Alors je reviens donc au début du plaidoyer par Isabès, donc c'est mon exemple 10, page 3. Donc par Isabès, on compare la situation des philosophes à celle d'un acteur de tragédie. Enfin, de ces faux philosophes à celle d'un acteur de tragédie. J'estimais que cette situation était semblable à celle où un acteur de tragédie, mou, efféminé, interpréterait Achille ou Thésée ou encore Héraclès en personne, n'ayant ni la démarche ni la voix d'un héros, mais faisant des manières sous un tel masque. Jouer le rôle d'Achille, de Thésée ou d'Héraclès exige de l'acteur un caractère à l'image des héros qu'il va représenter, et donc s'il est mou et efféminé, il ne saurait avoir ni la voix ni la démarche héroïque requis, et ne pourrait même jouer convenablement le rôle d'une femme. Il doit donc y avoir une certaine coïncidence entre la nature de l'acteur et celle de son personnage. L'image de l'acteur est d'ailleurs souvent redoublée par celle du singe, afin d'accentuer la distorsion entre la noblesse de l'identité usurpée et la réalité triviale de la nature de l'acteur. Il indique juste après, hein, « Je n'ai pu supporter leur jeu des honorants. » Alors, bon, pas traduit par « pièce honteuse », mais l'expression est « Tenais cunem tes hypocriseos », dans laquelle, n'étant que des singes, ils ont eu l'impudence de se parer de masques de héros. Alors évidemment, la comparaison est à la faveur des philosophes, hein, qui se trouvent grandis, qui ont le même statut héroïque que ces héros tragiques ou ces dieux présentés dans les tragédies. Tandis qu'au contraire, les mauvais philosophes sont ravalés la condition animale de singe. L'imitation en soi n'est donc pas condamnable. Se donner pour modèle les figures exemplaires des philosophes du passé, chercher à les imiter est respectable, c'est d'ailleurs un moyen de formation et d'amélioration morale que l'on rencontre chez Platon comme chez Plutarque. Mais Parésiades reproche aux philosophes de son époque de déshonorer la dignité de philosophe. De philosophes, comme des acteurs tragiques peuvent offenser les héros ou les dieux qu'ils représentent parce qu'ils sont de mauvais interprètes et qu'ils donnent à voir une image erronée et dégradée de ceux-ci. Il est alors légitime de dénoncer et punir ces imposteurs, tout comme il est juste, c'est un exemple que je ne vous ai pas mis mais qui intervient juste après, où il est dit qu'il est juste que les présidents des concours tragiques fassent fouetter l'acteur qui aura joué les dieux dont il porte le masque d'une manière indigne d'eux. Démasquer les faux philosophes, telle est la fonction que Parésiades prétend remplir, et les termes qu'il emploie pour décrire son action rappellent d'ailleurs le passage des fugitifs, où se trouvait évoquée la dialectique socratique, puisque donc, c'est dans l'exemple 11, voici comment il dit « Ce spectacle, moi, je ne pus le supporter, à l'Elencon autus, mais je les ai démasqués, traduit mon père, on pourrait dire je les ai réfutés, caidi ecrinon afumon, et j'ai marqué la différence entre eux et vous. » Le personnage de Parésiades conjugue des traits socratiques et cyniques, ici je ne développe que les traits socratiques, tout comme Socrate, il est d'ailleurs traîné en justice et menacé de mort pour un crime présenté comme une impiété, et son apologie revêt des accents de profession de foi en la légitimité et la nécessité de sa mission, qui rappelle là aussi la profession de Socrate dans l'apologie. C'est ce qu'il dit un tout petit peu après, c'est l'exemple 12. Upote posomai di lencon caicomodon, donc c'est de cette espèce que j'ai dit du mal, et je ne cesserai jamais de les démasquer, hein, de les réfuter, de les confondre, et de les ridiculiser, j'ai rajouté dans une comédie, parce que le terme comodon me paraît évoquer concrètement la comédie. Il faut ajouter que Parésiades se présente comme le fils d'Elenxicleus, donc avec un rappel là encore de l'Elenkos. Mais le moyen auquel Lucien recourt pour confondre les pseudo-philosophes n'est pas ici la dialectique, mais la comédie. Parésiades-Lucien représente en effet les philosophes dans ses dialogues comiques, mais ce faisant, il ne blasphème pas la philosophie, comme le croient au seuil du pécheur les pères fondateurs qui l'accusent. Ce sont plutôt les pseudo-philosophes qui se rendent coupables d'un sacrilège dans leur tragédie. Et il y avait, vous reviendrez en arrière, il y avait l'idée, enfin la comparaison avec les personnes qui parodient en dansant, hein, donc en faisant une imitation, mais une mauvaise imitation, une imitation sacrilège, les mystères. Le terme, c'est exorcumenon, et on retrouve à ce moment-là dielenxo aussi pour cette image. Donc ce sont eux qui blasphèment la philosophie. Le spectacle qu'ils offrent est en effet beaucoup plus néfaste que celui donné par Lucien Parisiades avec les vies des philosophes à vendre, car ces faux philosophes se donnent pour des philosophes réels et authentiques et pour les dignes successeurs de leur chef d'école, faisant naître chez ceux qu'ils abusent une opinion préjudiciable aux vrais et antiques philosophes. En faisant des pseudo-philosophes des personnages de comédie, Lucien permet à son lecteur-auditeur de prendre conscience du jeu et de l'hypocrisie de ces hommes, et par une forme de mise en abîme comique du spectacle qu'il leur joue dans la vie réelle. A l'inverse donc de ce spectacle tragique que jouent les faux philosophes, le dialogue comique, comme la comédie ancienne, souligne lui-même le masque dont il affuble ses personnages. Et Lucien répond un petit peu en quelque sorte à la critique que pouvait faire Platon de l'illusion créée par les représentations théâtrales, parce que comédie et dialogue comique ne cessent d'exposer le fait qu'elles sont des fictions, donc elles ne cherchent pas à faire croire qu'elles sont autre chose que des imitations et des représentations. Par ailleurs, Lucien revendique pour le dialogue comique une vertu de réprobation morale dans la tradition à la fois de la comédie ancienne, mais aussi de la raillerie et du rire des cyniques. Donc il y a aussi Parisiades, hein, le nom de son porte-parole, reprend cette tradition cynique. Il prétend donc, par cet héritage à la fois de l'hélénicos socratique et du rire cynique, conférer à son dialogue une vertu philosophique, tandis que sa forme de comédie lui permet de toucher un large public. Pour conclure donc, en dénonçant les faux philosophes, Lucien ne fait pas figure, comme il le prétend dans sa mise en scène de Parisiades, de paria de la philosophie, mais il rejoint finalement une mise en garde et une critique récurrente dans le discours philosophique contemporain, puisque les faux philosophes sont aussi bien dénoncés par Dion Prusse que par Épictète. Je vous ai mis plusieurs extraits en fait, des diatribes d'Épictète, parce que j'ai été assez frappée finalement par la convergence de discours que peut tenir pourtant un philosophe stoïcien tel que les abords Lucien. Et ce qui m'amène à me demander finalement si effectivement il n'y a pas réellement un petit peu d'enseignement philosophique ou de message philosophique dans ces dialogues comiques de Lucien. Alors par exemple, un extrait des diatribes où Épictète dit, enfin reprend un discours de l'opinion publique, celui-ci est philosophe. Pourquoi ? Il porte le manteau et la longue chevelure. Et les charlatans, qu'est-ce qu'ils portent ? Pour cette raison, dès que l'on voit dans l'un d'entre eux se conduire de façon inconvenante, on dit aussitôt « Vois le philosophe comme il agit », alors qu'il eût plutôt fallu dire à cause de cette conduite inconvenante « Ce n'est pas un philosophe ». C'est un petit peu le message que prétend tenir, hein, enfin, en tout cas la ligne de défense que prend Lucien par l'intermédiaire de son personnage Parisiades quand on l'accuse de ruiner la philosophie dans ses comédies. Il dit simplement non, ce ne sont pas des philosophes finalement que je dénigre. Cette dénonciation des faux philosophes, elle rejoint aussi un autre thème qui est important chez Épictète, qui est celui de la supériorité de la praxis, c'est-à-dire de la mise en pratique des préceptes philosophiques, comme par exemple l'indifférence à la peur dans des épreuves de la vie réelle, sur la spéculation théorique. Et les remarques railleuses que Épictète peut faire à ses disciples stoïciens, qui s'enorgueillissent de leur connaissance des dogmes et de leur maîtrise, par exemple, du commentaire des œuvres de Chrysippe ou de leur maniement du syllogisme, trouvent finalement une sorte d'écho chez Lucien, avec une récurrence parfois même des mêmes images. Alors là aussi, je lis avec vous un deuxième extrait. « Et maintenant, dit Épictète, quand les circonstances t'appelleront, iras-tu exhiber tes belles compositions, en faire la lecture et t'en prévaloir ? Vois comme je sais composer des dialogues. Non, monsieur, mais voici plutôt ce dont tu te prévaudras. Vois comment mes désirs se réalisent infailliblement. Vois comment mes aversions ne sont jamais pour moi une cause de chute. Apporte-moi la mort et tu me connaîtras. Apporte les peines, apporte la prison, apporte le cri, apporte la condamnation. » Et puis dans le dernier exemple, Montre-nous cela pour que nous constations que tu as réellement appris quelques notions de philosophie. Au lieu de cela, venez m'entendre débiter mes commentaires. Va te promener, cherche sur qui tu pourras dégorger ton vomissement. En vérité, je vous expliquerai comme pas un les doctrines de Chrysippe. J'analyserai son style avec la plus parfaite clarté. Je pourrais même y joindre l'abondance d'Antipater et d'Archédémos. Et voilà donc pourquoi les jeunes gens doivent quitter leur patrie et leurs parents pour venir t'entendre expliquer de petits mots. Ne faut-il pas qu'ils rentrent chez eux, armés de patience, disposés à rendre service, exempts de passion et de troubles, munis pour la traversée de la vie de provisions, etc. Et vous avez à la fin du texte, hein, à propos de, toujours à la fin de cet extrait, à propos du disciple qui veut ouvrir une école, hein, cela ne se fait pas au petit bonheur, vil esclave, ou n'importe comment, il faut l'âge. Que fais-tu, homme, sinon parodier en dansant les mystères? Alors, je vous ai mis aussi un extrait de Lamotimos. On a les reproches que fait l'oncle d'un jeune homme au philosophe à qui il l'avait confié, qui est sans doute un philosophe stoïcien, et il lui reproche justement de ne pas lui avoir enseigné ce que Épictète met en avant, à savoir les vertus morales, mais en revanche, il excelle, il est vrai, dans les syllogismes. Alors, il ne s'agit pas de dire que Lucien est philosophe comme peut l'être Épictète, surtout qu'il projette vaillamment toute doctrine philosophique, mais je suis frappée en fait par cette convergence dans cette manière de mettre en avant effectivement plutôt une praxis qu'une théorie. Et voilà, peut-être Lucien se présente-t-il comme une forme de veilleur, un petit peu, qui vient... là aussi, un petit peu comme y engage Socrate, solliciter de son auditoire un regard critique sans cesse, et sur les philosophes et sur soi, qui lui permettent de ne pas adhérer aveuglément au discours contemporain. Je m'excuse, c'est pas vraiment une conclusion, c'est plus des pistes de réflexion que j'aimerais poursuivre.